Bien, alors je ne sais pas si vous suivez l'actualité, mais si vous la suivez, vous êtes peut-être un peu inquiet aujourd'hui. Si vous êtes comme moi et que vous suivez l'actualité, vous êtes peut-être un peu inquiet aujourd'hui. On a un président aujourd'hui qui bat tous les records d'impopularité. Il y a une colère sociale apparemment qui monte dans notre pays et qui se propage de plus en plus, si bien que Jacques Attali a dit cette semaine sur une grande radio qu'il pensait qu'il y aurait bientôt une révolution en France, qu'il y aurait une révolution en France et qu'il souhaitait qu'elle soit démocratique. C'est aussi ce qu'a dit Alain Madelin sur une autre grande radio la semaine dernière, en disant que les conditions actuelles en France étaient les mêmes que celles qui avaient précédé la révolution de 1789. Ça, c'est pour la situation politique. Sur le plan éthique, on a aussi un gouvernement qui met en œuvre son idéologie de façon agressive, avec par exemple ce rapport sur l'avortement qui a été remis la semaine dernière au ministre des Droits des Femmes, et qui préconise entre autres la suppression de la clause de conscience pour les médecins face à l'avortement. Bon. Et puis ce mois-ci, le prix Renaudot de littérature, dans la catégorie essai, a été remis, dans l'indifférence quasi générale, on n'en parle pas, a été remis à un auteur ouvertement pédophile et défenseur de la pédophilie. D'accord? Le prix Renaudot de littérature. D'accord? Je sais que c'est un peu brutal, mais telle est l'actualité en France ces jours-ci. Notre société, semble-t-il, est en train de se disloquer moralement, politiquement, économiquement, socialement et même culturellement. Mais ce n'est pas tout. Beaucoup d'entre nous sommes aussi inquiets de l'état de notre propre vie. Pas juste de l'état de la société, mais aussi de l'état de notre propre vie. Certains parmi nous vivons dans la précarité. Certains sont au chômage, d'autres ont un travail, mais le détestent leur travail. D'autres sont malades, d'autres sont dépressifs, d'autres sont dans le deuil. D'autres encore vivent dans la peur, ou dans le doute, ou dans la culpabilité. Certains parmi nous, il y en a peut-être certains qui vivent tout ça en même temps. Bref, le constat est assez limpide. Nous vivons en tant qu'êtres dysfonctionnels dans un monde dysfonctionnel. Ça tourne pas rond, ni dans notre vie, ni dans le monde qui nous entoure. Et on aimerait bien être délivré de cette situation. Et ce constat, c'est aussi celui qu'a pu faire le peuple d'Israël dans la Bible au fil de son histoire. Donc rien de nouveau sous le soleil, en fait. Mais vers qui ou vers quoi vous tournez-vous pour remédier à cette situation? Vers qui ou vers quoi vous tournez-vous pour remédier à cette situation? Et ces personnes ou ces objets ou ces comportements ou ces idées dont vous espérez qu'ils amélioreront votre condition, dont vous espérez peut-être même qu'ils vous en délivreront, eh bien ces choses-là sont-elles efficaces? Peut-être qu'il faudrait changer de président. Ça serait efficace, changer de président? Peut-être qu'il faudrait changer de petit ami ou changer d'église, changer de voiture, changer de maison, que sais-je encore. Peut-être que c'est la cigarette qui va nous aider, ou les soirées avec les copains, l'alcool, les jeux vidéo, l'écologie, le sport, l'humanisme, l'athéisme peut-être est la solution. Est-ce que vous avez trouvé quelqu'un ou quelque chose qui soit vraiment capable de vous délivrer pleinement de votre situation d'être humain dysfonctionnel vivant dans un monde dysfonctionnel? Est-ce que vous avez trouvé? Eh bien, cette recherche qui est la nôtre et qui était celle aussi du peuple d'Israël dans la Bible, puisque c'était eux aussi des êtres humains comme nous, vivant dans un monde dysfonctionnel, cette recherche qui en réalité est celle de tout être humain, eh bien, à cette recherche, eh bien, le livre de Ruth que nous sommes en train d'étudier, et dont on va finir d'ailleurs l'étude aujourd'hui, et notamment à travers ce dernier chapitre qu'on est sur le point de lire et d'étudier, eh bien, à cette recherche, ce livre veut apporter une réponse assez bouleversante en fait. Et la leçon qu'on pourra retenir aujourd'hui, à travers le texte qu'on est sur le point de lire et d'étudier, c'est la suivante. C'est le Dieu de la Bible qui seul peut et veut t'offrir un secours complet et satisfaisant. C'est le Dieu de la Bible qui seul peut et veut t'offrir un secours complet et satisfaisant. Alors je vous rappelle, juste pour le contexte, si vous n'étiez pas là pour les derniers messages, que dans un premier temps, l'auteur du livre de Ruth nous a fait contempler au premier chapitre l'amertume de Noémie, cette femme qui doute de la compétence de Dieu à cause des épreuves qu'elle a dû traverser. Elle a perdu un mari et ses fils. Son mari et ses fils. Et ensuite, l'auteur nous a fait contempler, au deuxième chapitre, la bienveillance de Boaz. Boaz, c'est cet homme qui reflète, dans le récit de ce livre, qui reflète et qui relaie auprès de Ruth et de Noémie la bienveillance même de Dieu, du Dieu d'Israël. Ce qui a pour effet, dans le texte, de réveiller Noémie de son amertume. Puis ensuite, au troisième chapitre, c'était la dernière fois, l'auteur nous a fait contempler la loyauté de Ruth. La loyauté de Ruth, cette jeune femme exemplaire en termes de foi, dont le comportement nous a incité à notre tour à nous approcher hardiment, mais humblement, de Dieu, sachant que Dieu est assurément disposé à nous sauver. Et donc, à la fin du chapitre 3, on sait que Boaz, c'est un nom, hein, on sait que Boaz, qui reflète le caractère de Dieu, est déterminé à exercer son devoir de rachat, ce que le texte appelle son devoir de rachat à l'égard de Ruth et de Noémie, qui sont toutes les deux veuves. Et ce devoir de rachat, c'est cette fameuse disposition de la loi de Dieu dans l'Ancien Testament qui prévoyait que le plus proche parent d'un homme défunt épouse sa veuve et assume ensuite la gestion de son patrimoine, du patrimoine du défunt, afin de pérenniser la lignée du défunt, et non seulement sa lignée, mais aussi son héritage. Mais on a appris à la fin du chapitre 3 qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait un devoir de rachat vis-à-vis de Ruth et de Noémie. C'est un devoir de rachat qui précédait celui de Boaz. En fait, quelqu'un dont la parenté était plus proche. Et on va donc voir maintenant comment cette histoire va se résoudre. L'auteur nous a donc parlé de l'amertume de Noémie, de la bienveillance de Boaz, de la loyauté de Ruth, et maintenant, quatrièmement et dernièrement, il nous parle de la fidélité de l'Éternel. Alors je vais laisser Maïs venir faire la lecture biblique. Merci.
Bon, chapitre 4 du livre de Ruth. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or voici, celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé, vint à passer. Boaz lui dit, « Approche, reste ici, toi un tel. » Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et il dit, « Asseyez-vous ici. » Et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, « Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Élimélec. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, « Acquière-la, en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. » Et il répondit, « Je rachèterai. » Boaz dit, « Le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu l'acquerras en même temps de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. » Et celui qui avait le droit de rachat répondit, « Je ne puis pas racheter pour mon compte, de peur de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. » Autrefois, en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, « Acquière pour ton compte. » Et il ôta son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Élimélec, à Kiljon et à Machlon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt, dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui ? » Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, « Nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Éphrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Pérets, qui fut enfantée à Juda par Tamar. » Boaz prit Ruth, qui devient sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme, il sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille, qui t'aime, l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom, en disant « Un fils est né à Naomi », et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la postérité de Pérets. Pérets engendra Hetsron, Hetsron engendra Ram, Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nachon, Nachon engendra Salmon, Salmon engendra Boaz, Boaz engendra Obed, Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra David.
Merci. On va prier avant d'aller plus loin. Seigneur, merci pour ta parole. Puisses-tu maintenant nous instruire par le moyen de ta parole et par la puissance de ton esprit. Nous reconnaissons que ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. C'est donc le Dieu de la Bible qui seul veut et peut offrir un secours complet et satisfaisant. Ça, c'est la leçon de ce texte. Mais la première chose que l'auteur veut nous faire comprendre, versets 1 à 6, c'est que Dieu aime les croyants à ses propres dépens. Dieu aime les croyants à ses propres dépens. Donc ce qui se passe dans le texte, c'est que Boaz rencontre cet homme, dont le devoir de rachat précède le sien, d'accord? Il le rencontre à la porte, qui est un endroit officiel pour les Juifs à cette époque-là, pour les Israélites. Donc il va là-bas, devant des témoins, il convoque, vous avez vu, des anciens, des gens pour être témoins de leur négociation. Et il lui explique la situation à cet homme. Le terrain d'Elimelech, donc l'ex-mari, enfin le mari défunt de Noémie, le terrain d'Elimelech est en vente et cet homme a le devoir de le racheter en premier, il a un droit de préemption si vous voulez, pour protéger l'héritage du défunt, pour pas que cet héritage, ce patrimoine se disperse. Donc quand l'homme découvre ça, ben, ça l'intéresse, vous avez vu au début il est intéressé, c'est une affaire qui l'intéresse. Mais ensuite Boaz ajoute qu'il y a aussi dans l'affaire, il y a aussi une veuve qu'il devra prendre en charge. S'il achète le terrain, il devra aussi épouser Ruth, la belle-fille de Noémie, parce qu'elle aussi a perdu son mari, c'est un peu compliqué, qui était le fils d'Elimelech. Ça va, vous suivez pour l'instant. Et par cette veuve qu'il doit épouser, cet homme devra assurer au défunt une descendance. Et soudain, l'affaire n'est plus aussi intéressante. Il n'est plus du tout aussi intéressé, n'est-ce pas? C'est ce qu'on voit dans le texte. On ne sait pas exactement pourquoi. On ne sait pas exactement pourquoi cet homme refuse d'épouser Ruth, et du coup, il renonce au rachat du terrain qui lui paraissait intéressant au départ. Mais ce qui est sous-entendu dans le texte, c'est que Ruth représente une menace pour les intérêts de cet homme. Pour les intérêts de cet homme qui se présente au départ comme étant le rédempteur, celui qui a le devoir de rachat, vous voyez? Mais Ruth présente une menace pour ses intérêts, et donc il renonce. Il dit non, finalement, puisqu'il faut épouser Ruth, non, ça ne m'intéresse pas. Et ce qui est sous-entendu par ailleurs, c'est que Boaz, lui, qui est le deuxième sur la liste, lui par contre, ou lui en revanche, il est prêt à supporter ce risque. Il est prêt à prendre le tout, le terrain et la veuve, et à l'épouser. Et donc l'auteur est en train de mettre en valeur ici, à travers cette petite anecdote par rapport à ses négociations avec cet homme, il est en train de mettre en valeur la démarche de Boaz qui est prêt à exercer son devoir de rachat à ses propres dépens. Il est prêt à épouser Ruth alors qu'elle constitue a priori un risque pour les intérêts du rédempteur, de celui qui va la prendre en charge. On ne sait pas exactement pourquoi, mais ce qu'on sait, c'est que Boaz, lui, il est prêt à y aller. Il est prêt à exercer son devoir de rachat à ses propres dépens. D'accord ? C'est comme si vous étiez le PDG d'une grande entreprise et qu'on vous propose de racheter une autre entreprise qui est en train de couler. Ok ? C'est vraiment pas une bonne affaire. Vous examinez les enjeux économiques d'un éventuel rachat, vous convoquez vos conseillers, tout ça. Vous n'avez pas besoin de réfléchir très longtemps pour constater que ce rachat irait à l'encontre de tout ce que vous avez appris en fac d'économie. Ce serait une pure folie de racheter cette affaire qui coule. D'accord ? Personne ne le ferait. C'est une menace pour vos intérêts. Ce serait très coûteux. Ça mettrait même en péril tout ce que vous avez construit jusque-là, tout ce que vous avez bâti jusque-là dans votre entreprise. D'accord ? Mais voilà que dans le texte, Boaz le fait quand même. Il le fait quand même, à ses propres dépens. Encore une fois, j'insiste sur une chose ici, une chose qu'on a déjà vue les dernières fois, c'est que Boaz, dans ce texte, dans le récit de Ruth, dans le récit de cette histoire, Boaz reflète le caractère de Dieu. On avait vu la dernière fois que l'empressement de Boaz à exercer son devoir de rachat reflétait la détermination de Dieu à secourir les croyants. Et donc ce détail curieux qui montre que Boaz a tellement à cœur de secourir Ruth et Noémie, même à ses propres dépens, ce détail-là sous-entend que Dieu lui-même agit de la sorte. Parce qu'on est habitué à voir en Boaz le reflet ou le relais de la bienveillance de Dieu lui-même, de son caractère. En fait, à travers ce récit et à travers le personnage de Boaz, Dieu nous a déjà dit, notamment au chapitre 2, au chapitre 3, Dieu est en train de nous dire, voyez le genre de générosité qui est la mienne. Regardez la générosité de Boaz. Et voyez, c'est le genre de générosité qui est la mienne, celle du Dieu d'Israël, de l'Éternel. Voyez le genre de bienveillance que j'exerce. Voyez la façon dont j'accueille même une femme étrangère dans mon peuple et que je me montre généreux à son égard parce qu'elle a foi en moi, parce qu'elle se réfugie sous mon aile. Voyez la façon dont je me laisse approcher par ceux qui se fient à mes promesses. Voyez le genre d'empressement que j'ai à les sauver, ces personnes-là. Et maintenant, début du chapitre 4, il est en train de nous dire, voyez le genre de rédempteur que je suis. Voyez le genre de rédempteur que je suis. Voyez le genre de personne que je suis qui exerce ce devoir de rachat. Dieu, en effet, aime les croyants du même genre d'amour que celui dont Boaz aime Ruth. Ruth représente une menace pour les intérêts du Rédempteur, mais Boaz veut la racheter quand même à ses propres dépens. Et Boaz rachète Ruth dans l'intérêt de Ruth, pas dans l'intérêt de Boaz, vous voyez ? Il la rachète dans son intérêt, pas dans le sien propre, dans l'intérêt de Ruth, pas dans l'intérêt de Boaz. Et de même, Dieu compte nous racheter, nous les croyants, à ses propres dépens. Il nous rachète dans notre intérêt, pas dans le sien. Dieu n'a pas besoin de nous. Il n'y a pas besoin de nous. Il n'y a pas besoin de nous racheter. On ne représente aucun intérêt pour Dieu quelque part. Il n'y a pas besoin de nous créer. Il se suffit à lui-même, c'est dans sa nature. Donc il ne nous rachète pas parce qu'il a quelque chose à gagner. Il nous rachète parce que nous, on a quelque chose à gagner. Il nous rachète dans notre intérêt, pas dans le sien. Et il est disposé à payer lui-même le prix de notre rédemption. Et pourquoi ? Parce qu'il nous aime d'un véritable amour, c'est-à-dire d'un amour sacrificiel. Ça, c'est l'amour, selon Dieu. Un amour sacrificiel. Et je me demande si vous avez déjà trouvé quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre qui soit en mesure de faire de vous l'objet d'un tel amour. Quelqu'un ou quelque chose qui soit là pour vous. Pour vous. Pas pour lui. Mais qui soit là pour vous. Qui soit prêt à payer le prix qu'il faut, quel qu'il soit, pour vous racheter, pour vous délivrer, pour vous consoler, pour vous relever. Qui soit prêt à aller jusqu'au bout, jusqu'à la mort s'il le faut, pour vous. Vous avez déjà rencontré quelqu'un, quelque chose comme ça, prêt à faire de vous l'objet d'un tel amour? Ce que nous dit ce texte, c'est que Dieu aime les croyants, comme ça. Il aime les croyants à ses propres dépens. Mais voyons la suite. La deuxième chose que nous apprend ce texte, versets 7 à 12 cette fois, dans la suite du récit, la deuxième chose que nous apprend ce texte découle un petit peu de la première en fait. C'est que Dieu s'engage envers les croyants de manière irrévocable. Dieu s'engage envers les croyants de manière irrévocable. L'auteur veut attirer notre attention maintenant sur le caractère officiel et solennel de l'accord qui est conclu, d'une part entre Boaz et cette autre personne qui avait un devoir de rachat qui précédait le sien, et puis ensuite l'accord qui est conclu entre Boaz et Noémie et Ruth. Il y a plein d'accords dans ces versets 7 à 12. L'auteur veut attirer notre attention sur le caractère solennel, officiel de ces accords. On a d'abord au verset 7 et 8, une espèce de signature qui atteste le renoncement de l'autre homme à exercer son devoir. Donc, il enlève son soulier, comme c'était dit dans le texte que Maïlis nous a lu. Il enlève son soulier et le donne à l'autre. C'est une façon de signer un document officiel. C'était comme ça que ça se faisait à cette époque. Puis ensuite, on a un engagement solennel de Boaz vis-à-vis de Noémie, au verset 9. Et ensuite, verset 10, on a la publication du mariage de Boaz et de Ruth, qui est annoncée aux témoins et aux anciens et aux gens qui sont là, à la porte, cet endroit officiel de la ville. Et enfin, versets 11 et 12, on assiste à la bénédiction prononcée sur ces engagements par les anciens et par les témoins. Une bénédiction qui invoque sur ce nouveau foyer eh bien, la puissance et la fécondité. Voilà, c'est une affaire solennelle qui se passe là. L'idée générale, c'est que cet accord qui est conclu et qui a en vue la rédemption de la maison d'Élimélec, cet accord, c'est du sérieux. C'est du très sérieux, c'est du lourd. Bien souvent dans la vie, quand on prend des engagements, on atteste ces engagements par une signature, non ? Enfin, on a l'habitude de le faire, ça. Ou alors, parfois, on atteste ces engagements par un serment prononcé devant des témoins. Parfois, tout simplement, on l'atteste en ajoutant un peu de solennité à la promesse. Je me souviens du jour où j'ai demandé à Suzanne de m'épouser, par exemple. Ce jour-là, qu'est-ce que j'étais en train de lui dire, en fait, en substance? J'étais en train de lui dire que j'étais, pour ma part, en tout cas, prêt à la prendre pour épouse et à passer le reste de ma vie en étant attaché à elle par le lien du mariage. Waouh, c'est quand même du sérieux, non? Je lui ai donc pas dit ça au détour d'une conversation, un jour au McDo, en ayant un bout de Big Mac dans la bouche, quoi. Au fait, je me disais, peut-être que tu veux bien m'épouser? Non, ça le fait pas, c'est pas très solennel, vous voyez ce que je veux dire? J'y ai mis donc une certaine solennité à cette occasion, et j'ai ajouté à ma promesse un signe, une bague de fiançailles, qui valait cher. Gage de mon engagement à épouser Suzanne, hein? Et le jour de notre mariage, quand il est venu, il y avait des témoins, il y avait des signatures, des vœux solennels prononcés devant Dieu, des alliances qu'on s'est échangées, que je porte encore, heureusement, et on a invoqué la bénédiction de Dieu sur notre couple de manière solennelle. L'Église était rassemblée ici, on a invoqué la bénédiction de Dieu sur notre couple, sur notre foyer. Tout ça pour manifester quoi, en définitive? Pour manifester le caractère irrévocable de notre engagement l'un envers l'autre. Parce que c'était du sérieux, du très sérieux, du lourd. Et dans ce texte, on a un peu la même chose ici, hein. On a un accord qui est conclu de manière solennelle, ce qui nous fait comprendre que c'est un accord irrévocable. Il y a des témoins et ils invoquent la bénédiction de Dieu, puissance et fécondité sur votre couple, devant des témoins comme ça, en public, à la porte de la ville. Et de la même façon que Dieu nous disait au début de ce passage, voyez le genre de rédempteur que je suis, maintenant il est en train de nous dire, voyez le genre d'engagement que je prends. Regardez les engagements que prend Boaz, et parce qu'il reflète et relaie mon caractère, voyez à travers Boaz le genre d'engagement que moi je prends, moi le Dieu d'Israël. Dieu voulait que le devoir de rachat en Israël s'exerce parmi son peuple d'une manière solennelle et irrévocable. Parce que lui-même, lui qui est le rédempteur par excellence, le rédempteur d'Israël, lui-même s'engage vis-à-vis de son peuple de manière identique, d'une manière solennelle et irrévocable. Donc vous voyez ce que Dieu est en train d'enseigner à son peuple à travers ce récit, à travers cette histoire de Ruth, de Boaz et de Noémie. Il est en train de montrer à son peuple comment il lui-même agit en faveur des croyants, comment lui-même met en œuvre la rédemption qu'il présente à son peuple, lui le rédempteur avec un R majuscule. Et la Bible nous dit par ailleurs que l'engagement de Dieu envers les croyants précède même la création du monde. L'engagement de Dieu envers les croyants précède même la création du monde. Dieu le Père, avant la création du monde, a conclu un accord irrévocable, ce qu'on appelle souvent une alliance irrévocable. Donc Dieu le Père a conclu cet accord avec Dieu le Fils et avec Dieu le Saint-Esprit. Un accord dont le but était précisément la rédemption du monde qui n'était même pas encore créé, mais dont Dieu savait qu'il tomberait, chuterait dans le péché, qu'il serait maudit, mais dont Dieu avait prévu aussi qu'il le rachèterait. Il avait conclu cet accord irrévocable dans l'éternité. Et au fil de l'histoire, après la création, Dieu a fait des promesses en faveur de ceux qui se confient en lui. Et à ces promesses, il a ajouté des signes. Et il a même fait des serments. Vous savez que Dieu a juré dans la Bible, il a juré sur sa sainteté. Il a juré sur sa gloire qu'il réaliserait ses promesses. Et en effet, il a mis sa gloire sur la table, il a même mis sa vie sur la table, si j'ose dire, puisque Dieu s'est incarné en Jésus pour venir au plus près de sa création, au plus près des hommes, pour venir nous chercher là où nous étions, pour nous en délivrer. Et cette délivrance, il l'a acquise au prix fort, au prix de sa mort sur la croix. Vous voyez que Dieu aime les croyants à ses propres dépens. Mais vous voyez aussi qu'il s'engage envers les croyants de manière irrévocable. Faites-lui confiance, et rien ni personne ne pourra vous arracher de sa main. Franchement, est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose d'autre qui soit en mesure dans votre vie de vous offrir une telle sécurité? Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose d'autre que vous connaissiez qui soit en mesure de s'engager à un tel point envers vous, d'une manière certaine, irrévocable, et à ses propres dépens? Franchement, il reste encore un élément. C'est la fin du texte, c'est d'ailleurs le dénouement de l'histoire, à partir du verset 13. La troisième et dernière chose que le texte veut nous communiquer, c'est que Dieu destine les croyants à un rétablissement suprême. Dieu destine les croyants à un rétablissement suprême. On arrive donc à la conclusion du récit, Et là, l'auteur va attirer notre attention sur le caractère vraiment incroyablement positif de ce dénouement, de la conclusion de l'histoire. C'est vraiment un happy end au sens le plus fort, au sens le plus fort du terme, au sens le plus théologique du terme, j'ai envie de dire. C'est vraiment un happy end, cette histoire, à la fin. Ruth va donc épouser Boaz, elle enfante un petit garçon, et ce petit garçon incarne la rédemption de la maison d'Élimélec, parce que c'est ce garçon qui va permettre au nom et à l'héritage d'Élimélec de perdurer en Israël. L'héritage ne sera pas perdu, le patrimoine ne sera pas dispersé, la lignée ne sera pas interrompue. Élimélec a une descendance en ce petit garçon. Et Noémie, nous dit le texte, la veuve d'Élimélec, est par conséquent pleinement consolée. Le texte nous dit qu'elle revient à la vie. Elle qui a perdu un mari, deux fils, elle se retrouve maintenant avec une belle-fille qui vaut mieux pour elle que sept fils. Vous avez suivi ? Parce que cette belle-fille aime Noémie et a placé sa foi en Dieu. Elle est consolée. Vous avez noté ce détail ? Ruth vaut mieux pour elle que sept fils. Donc elle en a perdu deux, mais elle en retrouve sept quelque part. Elle vaut mieux pour elle que sept fils. Elle est pleinement consolée, elle revient à la vie. Non seulement cela, mais en plus, et c'est la cerise sur le gâteau, c'est vraiment le truc incroyable à la fin de cette histoire, en plus, cet enfant, fils de Ruth, eh bien, il se trouve que c'est le grand-père du grand roi David. Quel incroyable dénouement, non ? Quel incroyable rétablissement de la maison d'Élimélec à la fin de cette histoire ! Quelle incroyable résurrection de Noémie, elle qui était morte dans son amertume au début du livre et qui revient à la vie. Elle qui a perdu deux fils au début, qui en retrouve sept à la fin. D'accord ? Elle qui doutait de Dieu au début et qui à la fin, elle a sur ses genoux le grand-père du grand roi David. Alors je vous disais que cette histoire ressemblait... Je disais dans un autre message que cette histoire ressemblait en partie à l'histoire de Job dans l'Ancien Testament. Et la fin est semblable aussi. On se souvient de Dieu qui rétablit à la fin de l'histoire de Job, qui rétablit la situation de Job et qui lui accorde le double de tout ce qu'il avait possédé. Et le texte ajoute, concernant Job, l'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job plus que la première. Vous voyez, c'est vraiment la même conclusion hein, dans le livre de Ruth. L'idée générale, c'est quoi ? Que Dieu veut nous communiquer ici. C'est quoi l'idée générale ? C'est qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour les croyants, pour ceux qui se confient en Dieu. Qu'est-ce que ça change de le savoir ? Qu'est-ce que ça change d'en être vraiment persuadé de cette vérité ? Qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir pour ceux qui se confient en Dieu. Qu'est-ce que ça change de le croire ? Eh bien, c'est comme... quand vous êtes en train de faire une randonnée épuisante, sous un soleil de plomb, dont vous ne voyez pas la fin, vous transpirez, vous avez mal aux jambes, vous avez des ampoules aux pieds, mais en même temps, vous ne vous résignez pas à vous asseoir sur le bord du chemin pour vous laisser mourir. Et pourquoi ? Mais parce que vous avez un concept en tête. Vous avez un concept en tête. C'est le concept de la chope de bière, bien fraîche, qui vous attend à la buvette, en bas de la montagne. Donc ça vous motive à continuer. Ou alors vous êtes étudiant, en médecine peut-être, et vous passez des années à étudier, à apprendre, à réviser, vous travaillez le soir dans un restaurant pour pouvoir subvenir à vos besoins, à votre colocation, et vous sacrifiez tout votre temps libre, vos vacances, vos loisirs, vous en avez franchement marre. Mais en même temps, vous ne vous résignez pas, en tout cas pas encore, à faire un feu de joie avec vos cours et vos livres de médecine. Ça viendra peut-être plus tard, mais pour l'instant, non. Pourquoi ? Parce que vous avez un concept en tête. Vous avez le concept de pouvoir exercer un jour ce métier qui vous passionne. Et Dieu veut que nous aussi, on ait un concept en tête. Celui de notre rétablissement futur. Noémie pouvait-elle imaginer ce que Dieu allait faire pour elle à travers sa belle-fille ? À travers cette belle-fille moabite en plus, c'est-à-dire païenne. Noémie pouvait-elle imaginer ce que Dieu allait faire ? Difficilement, hein ? Difficilement. D'ailleurs, elle ne l'imagine pas du tout au début. Mais ce que Dieu a fait dans sa vie a complètement dépassé ses espérances. Noémie était franchement morte dans son amertume. Presque morte spirituellement, elle doutait de Dieu. Hein ? Mais Dieu, à la fin, l'a rendue à la vie. Il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances passées de Noémie et sa consolation à la fin de l'histoire. Pas de commune mesure. Et comme Dieu nous disait au début de ce récit, voyez le genre de rédempteur que je suis, et ensuite il nous disait, voyez le genre d'engagement que je prends, maintenant il nous dit, voyez le genre de rédemption que je vous destine. Voyez le genre de rédempteur que je suis, le genre d'engagement que je prends, maintenant regardez, le genre de rédemption que je vous offre, que je vous destine à vous, croyants, si vous placez votre confiance en moi. Dieu veut qu'on ait conscience aujourd'hui, maintenant, malgré les épreuves auxquelles nous sommes soumis, malgré nos péchés, malgré nos souffrances, malgré nos doutes et nos luttes, il veut que nous soyons convaincus en fait que si nous lui faisons confiance, notre rétablissement sera suprême. Suprême. Il ne pourra pas être mieux. C'est ça que ça veut dire suprême. Il ne pourra pas être mieux. Jésus est mort pour ça. Jésus est ressuscité pour ça. Jésus est monté au ciel pour ça, il s'est assis à la droite de Dieu pour ça. Il nous offre la vie éternelle, une vie qui commence dès maintenant, mais qui sera un jour complète et glorieuse. Un rétablissement suprême le jour où Jésus lui-même inaugurera une création entièrement renouvelée et rétablie. C'est ce que la Bible appelle les nouveaux cieux et la nouvelle terre, où Dieu, et je cite, un passage du Nouveau Testament où Dieu habitera avec les croyants. Ils seront son peuple et Dieu sera lui-même avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Un rétablissement suprême. Donc aujourd'hui, vous et moi, nous sommes des êtres humains dysfonctionnels et nous vivons dans un monde dysfonctionnel. C'est pas difficile à constater. Il suffit de suivre l'actualité et vous en serez rapidement convaincus. Notre société, semble-t-il, est en train de se disloquer moralement, politiquement, économiquement, socialement, culturellement. Non seulement ça, mais on n'a nulle part où se mettre à l'abri. On n'a nulle part où se mettre à l'abri puisque notre propre vie est aussi atteinte de ce mal. Et on ne peut pas se mettre à l'abri de sa propre vie. Comment fuir sa propre précarité ? Comment fuir sa propre maladie? Comment fuir sa propre dépression, son propre deuil, ses propres peurs, ses propres doutes, sa propre culpabilité? Comment fuir ces choses? C'est impossible. Et pourtant, on essaye. On se donne du mal, franchement, pour essayer de fuir ces choses. Hein. On se tourne vers toutes sortes de personnes, de choses, de comportements, ou même d'idées, dont on espère qu'elles soulageront un peu notre mal-être. Mais rien ne semble être en mesure de nous délivrer pleinement. Vraiment, de notre situation d'êtres humains dysfonctionnels vivant dans un monde dysfonctionnel. Eh bien, mon ami, arrête de chercher. Arrête de chercher, car le texte d'aujourd'hui nous a bien fait comprendre que c'est le Dieu de la Bible qui seul peut et veut t'offrir un secours complet et satisfaisant. Qui est comme lui pour aimer d'un amour sacrificiel ? Qui est comme lui pour s'engager envers toi par une alliance irrévocable? Qui est comme lui pour te destiner à un rétablissement suprême? Qui? Approche-toi de lui. Attache-toi à lui. Car contrairement à toutes ces choses dans ta vie qui essayent de lui faire concurrence et qui te laisseront toujours frustré et insatisfait, contrairement à toutes ces choses, Dieu lui a promis de te racheter pleinement. Et il est fidèle à ses promesses. Amen.